Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro du forum Espace Femmes, dans lequel nous abordons le thème « La contribution des femmes parlementaires pour défendre les droits des femmes ». Au Niger, les députés élus au titre de la 3e législature de la 7e République ont été installés le lundi 22 mars 2021 lors d'une cérémonie solennelle rehaussée par la présence du Premier ministre et chef du gouvernement nigérien Birgi Rafini, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique et de plusieurs autres invités. Ils sont 106 sur les 171 députés qui composent le Parlement nigérien qui ont ainsi pris fonction pour un mandat de 5 ans. Les 5 sièges non attribués revenant à la diaspora où la CENI n'a pas pu organiser les votes faute d'enrôlement des Nigériens de l'extérieur pour cause du Covid-19. Pour les 106 nouveaux parlementaires, on compte 50 femmes. Elles proviennent des 19 partis politiques. Quelles sont les actions que les femmes parlementaires comptent faire pour défendre les droits des femmes, quels sont les différents axes d'intervention et quels sont les objectifs? Pour faire le tour de ces questions, nous accueillons dans ce studio Madame Hassan Hassia, députée nationale, Madame Abdurrahman Nane Djoubi, députée nationale également, et Madame Kiari Hajia Falmata du Kangafen. Bienvenue à toutes et je suis Samira Rafi pour la modération de ce forum. On compte 50 femmes députées sur les 106 qui siègent à l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Je commence avec vous, Madame Falmata Kiari. Dites-moi, quel regard faites-vous sur les femmes députées en général?
Merci d'abord de m'avoir invité au studio Kalangu pour cet événement. Et ces femmes, on a un regard pour elles parce que c'est une référence. Parce qu'en 1960, il y avait seulement une femme députée depuis les indépendances. Il y a eu une avancée, n'est-ce pas? D'une députée, on a passé à 50. Et vraiment, on compte sur ces femmes-là pour défendre les droits des femmes. Et il ne s'agit pas des femmes citadines, il s'agit aussi des femmes rurales. Parce que si on dit femmes, souvent on voit les femmes citadines. Et il faut surtout penser aux femmes rurales qui ont des problèmes. Donc notre regard se tourne vers ces femmes-là pour arracher nos droits. Parce que le droit ne s'octroie pas, mais les droits, ça s'arrache. Nous sommes les bétails électoraux. C'est grâce à nous que ces femmes sont élues, c'est grâce à nous que ces hommes sont élus. Sans nous, n'est-ce pas, ils n'auront pas atteint ce score-là. Donc, il faut qu'elles aussi, au retour, n'est-ce pas, qu'elles recensent tous nos problèmes. Les problèmes de la ville, les problèmes de ruraux, elles n'ont qu'à recenser. Et chacune dans sa région, elle n'a qu'à essayer aussi de recenser tous les problèmes pour les résoudre. Par exemple, l'accès à l'école par rapport à la scolarisation de la fille. S'il n'y a pas d'école dans la contrée où il y a une femme députée, elle n'a qu'à lutter pour qu'elle fasse faire une école, pour qu'elle fasse venir une école, n'est-ce pas, pour que la fille puisse être scolarisée surtout. Il ne s'agit pas du garçon, mais aussi de la fille. Donc pour les femmes rurales, les femmes députées peuvent faire venir des bailleurs de fonds pour qu'elles aient des activités génératrices de revenus. Vous voyez bien. Donc elles ont un rôle à jouer, c'est une référence pour leur contrée, c'est pas pour rien qu'on les a élus. Elles doivent recenser tous les problèmes et essayer de les résoudre au niveau de l'Assemblée. Et s'il y a des lois qu'il faut voter par rapport à la femme, il faut que ces femmes-là, n'est-ce pas, fassent pression pour que ces lois-là aboutissent. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de faire des lois, mais aussi il s'agit de les faire appliquer.
Je reviens vers vous, Madame Nana Djoubi. Dites-nous, vous avez été citoyen lambda avant d'être élu députée. Quelle appréciation faites-vous des actions des femmes parlementaires de la législature, des législatures plutôt précédentes?
Bonsoir tout le monde, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. Avant de vous répondre à votre question, je voulais très sincèrement vous dire merci au studio Kalangu de nous donner l'occasion une fois de plus de nous exprimer en tant que femmes, en tant que politiciennes. Qui agissent ou qui militent pour les droits des femmes. C'est vrai. Avant d'être au Parlement nigérien, on était citoyen lambda. Et aussi, on était dans les activités de la promotion de la femme et des protections de l'enfant. Ça veut dire qu'on avait des projets, on avait des activités qu'on faisait de temps à autre avec des partenaires ou non souvent, toujours pour le bien-être de la femme et des enfants. À vrai dire, pour aller directement et pouvoir donner une occasion ou l'occasion à ceux qui m'écoutent de me comprendre, il nous est arrivé que quand on doit prendre une décision ou quand on doit faire une activité et qu'on se bloque ou qu'on n'a pas de repère pour le faire, il nous arrivait souvent d'avoir recours aux femmes parlementaires pour faire des activités. Et il s'est trouvé que très vite, quand on n'était pas politicienne ou quand on n'était pas parlementaire, très vite on s'est confronté à la réalité. On avait compris qu'à un moment, il y avait beaucoup de femmes qui étaient parlementaires ou qui étaient députées pour l'être. Parce que, je prends un cas très précis sur l'éducation, il y avait un phénomène sur la dépravation des mœurs. On voulait avoir des réponses des députés par rapport à beaucoup de problèmes de la société ou par rapport aux lois existantes, etc. etc. Je me souviens qu'on avait fait une délégation d'une équipe composée de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est généralement des éducatrices, des enseignantes, etc. Et on voulait avoir des réponses par rapport à beaucoup de choses. Et on voulait s'adresser aux femmes parlementaires à l'Assemblée. Je me souviens qu'on a pris nos véhicules, on est parti à l'Assemblée, mais personne ne nous a répondu. Celles qui ont été les plus gentilles nous ont expliqué qu'en fait qu'elles n'avaient pas l'autorisation de nous rencontrer et qu'elles ne pouvaient pas parler et que qu'elles étaient désolées. Donc c'était vraiment un grand truc, c'était énorme. On ne comprenait pas. C'est vrai, maintenant peut-être avec l'expérience on commence à comprendre pourquoi. Mais une chose est sûre, moi quand avant d'aller dans la politique, je ne ressentais pas le travail des femmes politiciennes pour la femme nigérienne, sincèrement. Et peut-être même ça fait partie des choses pour lesquelles j'étais très motivée à ne plus être en face, mais sur la même chaise. Voilà.
Alors, pensez-vous que le peu d'objectifs que vous connaissez dans le programme de ces femmes, est-ce qu'il a été atteint?
Je ne pense pas. Parce que je ne pense pas, très sincèrement. On est sur un forum et on n'est pas censé venir parler pour faire plaisir à quelqu'un. Et encore moins pour soi-même. On n'est pas là pour parler de soi-même. Mais je suis sûre qu'en fait, c'est un micro qui nous permettra de mettre à lumière tout ce qui entrave l'épanouissement, le bien-être de la Nigérienne. Vous savez, ce qui est dommage, c'est que, et j'espère que ceux qui sont, concernés par cette question nous écoutent, parce qu'on a l'impression, je suis toujours en dehors de ma robe de parlementaire, c'est la citoyenne lambda de avant 2021 qui vous parle là. On avait l'impression que ces femmes-là qui décidaient pour la Nigérienne n'étaient pas des Nigériennes. En fait, c'est l'impression qu'on avait. On avait l'impression qu'en fait, comme si elles ne comprenaient pas, comme si elles ne voyaient pas, comme si, tellement nous, on ne ressentait pas. Ce n'est pas pour dire qu'elles ne font rien. Alhamdoulilah, et ça se voit. Tout le monde a vu. Elles font de leur mieux. Mais quand vous êtes en dehors du cercle, vous avez l'impression qu'il y a des choses, des petites choses à côté à laquelle il faut penser ou il faut que ça ne marche pas. Donc, elle faisait beaucoup d'efforts plutôt, mais ça ne se sentait pas comme il fallait. C'est-à-dire les efforts étaient plus que le résultat. Ce n'était pas équilibré. Donc, on s'est dit qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Ou peut-être nous, en venant, des choses avec lesquelles il faut travailler, où on doit prendre compte de ci et ça pour voir ce qu'on peut amener comme contribution et pour voir qu'est-ce qu'on peut pousser pour que ça aille de l'avant.
Dites-nous, vous, je continue toujours avec vous, quel est votre programme en tant que députée?
D'accord. Là, en tant que députée, il va falloir que je fasse la transition pour que vous puissiez comprendre un peu mes motivations. C'est comme j'ai dit, avant d'être députée, j'étais vraiment promotrice des droits de la femme. Et c'est là depuis 2012. Très tôt, quand j'avais fini les études, je n'ai pensé qu'à ça. Et c'est vrai, je suis issue des milieux. On me dit souvent, c'est parce que je viens que je pense et que je fais ce que je fais. Je suis de Maradi et j'ai grandi dans une autre localité qui n'est pas Maradi. Et c'est pourquoi quand je suis revenue, j'ai trouvé des choses bizarres que je ne trouvais pas normales. C'est vrai, j'ai les pieds sur terre, je connais les réalités du Niger. On a une religion, on a des coutumes, on a des traditions. Donc, c'est pas pour autant que, bon, voilà, je vais être dépassée de ce qui se passe. Mais une manière de dire, pour moi, il y avait tellement de petites choses de rien du tout qu'il faille améliorer, qu'il faille apporter à la femme pour que ça aille mieux et qui n'étaient pas faits. Donc, j'ai très vite ouvert mon ONG pour faire de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant, en tenant entre griffes compte de toutes les réalités qui nous entouraient en tant que maradiens en ce temps-là. Et quand je dis la femme maradienne, c'est typiquement la femme nigérienne. On a pratiquement les mêmes réalités, etc., etc. Donc, j'avais un projet que je voulais exécuter. J'avais des programmes, j'avais des rêves pour la Nigérienne. Et plus on avançait, plus on trouvait qu'il y avait des petits soucis par-ci. Il y avait des portes formées par-là. Il y avait. Et la meilleure solution, la meilleure manière de s'exprimer et d'agir pour le bien-être de la Nigérienne, c'était de porter la robe politique, de s'asseoir à l'hémicycle, d'écouter, de comprendre toutes les lois régissant la vie de la femme et d'essayer d'apporter notre contribution. En gros, c'est vrai, on a, entre griffes, des propositions, mais au-delà de tout, nous, on est disponible à contribuer, s'il le faut, à améliorer les lois régissant la vie de la femme dans notre pays, au mieux proposer des nouvelles lois s'il le faut. Mais une chose est sûre, nous croyons fermement à l'engagement de notre pays parce qu'il a été l'un des premiers à adopter cette loi-là, amenant le quota en 2020 à 25% pour le comment on appelle le côté électif et 30% pour les postes de l'État. Donc une manière de dire que voilà, on a beaucoup de programmes et peut-être qu'au cours des discussions, j'irai à pour détailler un peu ce que comporte notre programme, Inch'Allah.
Avant de revenir pour vous poser la question suivante, cher invité, je vous propose d'écouter quelques témoignages recueillis par moi-même des femmes qui nous donnent leur avis et leurs attentes par rapport à vous, nos chers députés.
Mes attentes par rapport aux femmes élues au Parlement, c'est qu'elles puissent vraiment défendre au mieux les droits des filles, des femmes, mais aussi représenter valablement les femmes en démontrant leurs compétences et leurs capacités de mobilisation autour des questions de développement durable. Qu'elles montrent vraiment que nous sommes une valeur ajoutée à nos communautés, que nous avons des idées brillantes et innovantes, que nous sommes au même titre que les hommes capables en fait d'impulser un changement positif pour nos communautés. Donc j'attends vraiment d'être une très grande mobilisation. Il ne suffit pas de ratifier ou de signer des documents. Il faut qu'il y ait des décrets d'application, que les femmes se sentent protégées dans notre communauté, qu'elles se sentent respectées.
Je voudrais dire que les femmes élues au Parlement doivent essayer de voir clair. En allant en rang dispersé, les femmes ne pourront rien avoir ou rien recevoir. Souvent, on se focalise seulement sur les femmes des villes comme Niamey, peut-être Terra et tout. Mais il y a des femmes qui sont au fond dans les villages qui ont vraiment besoin d'appui de toutes ces femmes-là. Parce qu'il n'y a pas longtemps, tout le monde l'a su. Il y a des femmes nigériennes qui se sont faites violer à Terra. C'est resté sans suite. Alors que après les élections, les femmes ont commencé à crier non, quota, 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 quota. Non, c'est pas seulement les quotas. Il faut travailler, je pense. Donc, comme il y a des femmes parlementaires, ces femmes parlementaires-là peuvent être, les locomotives afin d'ouvrir les yeux des uns et des autres.
Mes attentes aux femmes élues au Parlement, c'est pour qu'elles votent vraiment des lois qui seront en faveur des femmes et des enfants, parce que pendant les campagnes, elles étaient sur les terrains et elles ont vu les conditions de vie et autres.
Ce que j'aimerais demander vraiment à toutes ces femmes qui sont au Parlement, elles ont pris un engagement de défendre le droit de toutes les femmes. Alors là, qu'elles n'oublient pas. Donc de se mettre en tête que vraiment il y a des femmes qui sont là, qui les attendent, qui les observent. Et on attend vraiment d'elles un résultat vraiment satisfaisant. Donc de ne pas oublier de lutter pour la cause commune.
Retour au studio, je commence par vous, Madame Hassia. Dites-moi, que pensez-vous de ce que vous venez d'écouter?
Nous avons appris c'est que dans notre contribution que nous voulons apporter en tant que femmes parlementaires et la scolarisation de la jeune fille, les mariages précoces et surtout l'allègement des tâches. Parce qu'une fille qui habite plus de 2 km, là où il n'y a pas de moulin à grains pour écraser sa maman lui envoie pour aller chercher de l'eau. C'est ça que j'ai dit, qu'on va chercher des partenaires techniques et financiers pour l'allègement des tâches. Parce que s'il y a de l'eau à côté, quand même, les corbeaux d'eau, ça serait un bien pour toute la famille. Et la fille aura le temps d'étudier.
Je reviens vers vous, Madame Djoubi. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'écouter?
Merci. D'abord, je voulais répondre à la première intervenante qui a parlé de la valeur ajoutée par rapport à notre présence à l'hémicycle, surtout en étant au nombre de 25% cette législature-ci. Et c'est vrai, c'est une valeur ajoutée, mais si et seulement si nous, les parlementaires femmes, se rendent compte de ce qu'elle est en train de dire. Je profite pour l'occasion pour dire, je l'ai toujours dit, je l'ai crié, je sais de quoi je parle. J'espère de tout cœur que toutes mes collègues parlementaires, députés, se rendent compte de combien la femme nigérienne, plus précisément, compte sur nous pour tout ce qui peut y avoir comme changement, comme on appelle ça, progression et comme développement de la nigérienne dans tous les sens. Et aussi, sur la deuxième intervention, le monsieur a parlé de ne pas arriver à disperser. Aussi, je l'ai juste conçu comme une manière de nous dire, il y a des moments où on doit oublier nos couleurs en tant que politicienne et se mettre la main dans la main pour pouvoir apporter un plus pour la Nigérienne. Et il a parlé de ne pas oublier nos sœurs du fin fond, c'est vrai. Quand tu vas en campagne ou quand vous allez quand vous faites la politique, le terrain vous permet de faire face à toutes les réalités possibles au Niger. C'est-à-dire, vous rencontrez de tout. C'est l'occasion de comprendre tout. C'est l'occasion d'être en contact avec tout le monde. Et il est vrai, façon il parle, c'est clair. Le message est entendu. C'est sa manière de dire, vous savez, il y a parfois des choses qui se décident sans tenir compte de la réalité. En milieu rural, il y a des choses qui se font, mais la citoyenne lambda qui est restée dans son monde rural ne peut pas en profiter. Et on est là en tant que député retentissant de ces milieux-là pour mettre l'œil sur les choses et voir comment à chaque fois qu'il y a besoin, sera de faire en sorte que les Nigériens soient traités à la même longueur d'onde. Aussi, le troisième intervenant à parler d'un engagement pour les femmes. En réalité, c'est peut-être pour corriger, et j'espère que l'intervenante savait, que les femmes députées ne sont pas à l'Assemblée pour les femmes. Non, non, non. Elles sont à l'Assemblée pour toutes les femmes. Et pour tous les Niger. C'est un député, il est national. C'est-à-dire, il est là pour défendre les droits de tout le monde. Et ce n'est pas parce que vous êtes ressortissant du Sud que vous ne pouvez pas défendre le Nord, etc. Non, non, non. Vous travaillez pour tout le Niger, pour tous les Nigériens. Mais c'est vrai, il y en a entre griffes des connotations un peu mon électorat. Mais vraiment, on est là pour travailler pour tous les Nigériens. Alors, puisqu'il s'agit parmi les Nigériens, cette fois-ci, il s'agit des femmes. Sachez que nous aussi, en tant que femmes, nous avons des visions, nous avons des projets, nous avons des programmes et nous ferons en sorte que, Inch'Allah ta'ala, qu'il y ait qu'on marque, parce que là, c'est vraiment le début du commencement, qu'on marque notre passage à l'hémicycle.
Alors, je continue toujours avec vous. Pensez-vous que les femmes députées peuvent relever le défi face aux problèmes des femmes ici au Niger?
Oui et non.
Vous pouvez vous expliquer?
Ouais. Je dis bien oui et non. Dans un sens, déjà, c'est très important. C'est un pas de géant qu'on est arrivé à représenter 25% des sièges à l'Assemblée. Et en tant que femme, j'ai toujours imaginé pour dire, ou j'ai toujours rêvé en me disant, on pouvait représenter, on est des femmes. Et notre créateur nous a créés avec ces facultés-là, d'avoir tout le monde autour de nous ou d'être en même temps des rassembleuses, comment on appelle ça, des éducatrices, etc., etc. Alors à 25, je sais qu'on peut faire énormément, mais alors beaucoup, beaucoup de choses, et on peut changer beaucoup de choses. Mais la question que je me pose, déjà, la première session de l'année 2021 tire à sa fin probablement ce 5G. On va assister à la clôture de la session. Déjà, j'ai vécu 3 mois avec certaines de nos sœurs. Je me demande si elles ont conscience de ce qui se passe. Parce que vu le comportement de certaines d'entre nous, c'est pas évident. Donc là, j'ai arrêté de rêver. Ça fait un bon bout de temps. Et deuxièmement, je me demande si réellement, dans le cahier de charge de certaines, il y a le dossier femmes nigériennes. Je me demande. Parce que je le dis très sincèrement, parce que vis déjà le comportement, vis déjà les manières de faire. On se demande si nos sœurs à l'hémicycle, et ça très, très sincèrement, ce n'est pas pour pointer du doigt, c'est pour réveiller les femmes parlementaires ou députées avec qui on travaille en ce moment. Pour leur dire, quel que soit ce qu'il y a autour de nous, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir aider nos autres sœurs qui n'ont pas eu la chance d'être là où on est ou qui n'ont pas pu être la voix qu'on est. Parce que de notre côté, on est la voix des sans-voix. De notre côté, nous, on a vécu ce qu'elles vivent dans leur vie, ou du moins la plupart des choses. Même quand je pense sur le côté mariage au Niger, le foyer, l'éducation, il y a des réalités, on n'a pas besoin de nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça pendant qu'on est à l'Assemblée? On a été au village, qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là qu'on a vues et à qui on a demandé de voter pour nous? Donc, c'est ma manière de dire oui et non. Si on se rend compte, Wallahi, ça va le faire. On peut faire beaucoup de choses. Mais si on laisse le temps passer ou on se laisse pénétrer, ou je ne sais pas quel terme je vais utiliser, ou divertir, ce n'est pas évident. Donc, selon moi, à condition qu'on se réveille et qu'on fasse quelque chose pendant qu'il est temps.
Merci. Je reviens vers vous, Madame Hassia. Dites-moi, sur quelle thématique de droit de la femme allez-vous mettre l'accent et pourquoi?
Notre contribution, c'est par rapport aux femmes rurales. Comme je suis née au village, je connais les réalités des terrains. Donc, je sais qu'au village, les femmes souffrent plus que les hommes.
Je vous repose la même question, Madame Manana. Quelle est votre thématique de droits de femmes que vous allez... Sur quelle thématique des droits des femmes vous allez mettre l'accent et pourquoi?
Elles seront deux. Et on est là-dessus depuis 2012, comme j'avais dit. Ce sera juste une suite. La première thématique, ce sera sur les droits, la promotion des droits de la Nigérienne. Et quand je dis les droits, dans tous les sens. Jusqu'ici, les droits juridiques ont été mis en avant. Je ne suis pas du domaine et je n'ai pas les termes appropriés. Une manière de dire de ce côté-là, on a fait des efforts, mais on oublie l'identité de la Nigérienne. Une Nigérienne est forcément une femme avec des coutumes et probablement avec une religion. Et connue de tout le monde, on le sait. La plupart des Nigériens sont des musulmans. Alors, probablement, sur 100 femmes, il y aura une probabilité sûre de 99 de ces femmes-là qui seront musulmanes. Alors, selon nous, selon notre programme, si, quoique, j'espère, les juristes qui écouteront ce forum nous édifieront là-dessus, si nous sommes dans un pays laïque qui nous permet à tous de pratiquer ou pas la religion qui nous semble la mieux indiquée, pourquoi au Niger, aujourd'hui, on ne nous aide pas, on n'aide pas la Nigérienne à faire la promotion de ses droits religieux? Pourquoi je dis ça? Pour dire qu'on aurait compris que dans la religion des 99 de ces Nigériennes-là, il y a beaucoup de choses qu'on aurait utilisées et qui nous auraient aidé à bannir complètement parfois des mets ou des mots qui gangrènent notre société. Il y a beaucoup de choses en le faisant qu'on pourra changer ou qu'on pourra faire avancer. La deuxième chose, c'est la formation professionnelle. On a compris... c'est quelqu'un entre griffes, je n'ai pas le proverbe en français, mais il y a un proverbe qui dit « ba dawa, ba dawa, ba dawa ». C'est-à-dire, Il est clair qu'on est l'un des pays les plus pauvres. C'est difficile de le dire. En voie de développement, on dit, paraît-il. Mais la réalité, elle est là. Et la plupart des femmes nigériennes sont à 5, plus, on est à plus de 50%. Les femmes sont plus de 50% de la population nigérienne. Ça veut dire qu'on est les plus nombreuses. Et mieux encore, plus de 60% de la population nigérienne a moins de 24 ans. Ça veut dire qu'on est femme, on est jeune. Une manière de dire la main-d'œuvre est là. Une manière de dire, c'est une potentialité. Si on veut participer au développement socio-économique de ce pays-là, il faut mettre en avant les femmes à travers tout ce qu'on a comme formation professionnelle. Et ce qui est bien, c'est que la femme, elle est employable dans beaucoup de choses. Alors si nous utilisons ces jeunes femmes, si nous leur apprenons, nous les sensibilisons, il est clair qu'on va avoir ce qu'on veut, parce qu'on va les mettre en avant pour l'entrepreneuriat, on va les mettre en avant pour tout ce que vous voulez en matière de commerce, etc., etc., etc. Donc, selon nous, ce sera une manière de lutter contre la pauvreté et aussi d'ouvrir beaucoup de portes pour aider la Nigérienne. Donc, à résumer, la promotion des droits, la promotion de l'entrepreneuriat de la femme. C'est à résumer ce que nous mettons en avant.
Mm-hmm. Madame Kiari Falmatad, quelle appréciation faites-vous des actions des femmes parlementaires des législatures précédentes?
Bon, vous m'excusez que ces femmes-là m'excusent. Il y a eu beaucoup de plaintes. Maintenant, il y a eu une prise de conscience des femmes parlementaires, qu'il s'agisse aussi des hommes ou bien des femmes. Quand vous êtes élu, vous oubliez la contrée. Vous oubliez les gens qui vous ont élu. Vous restez dans la capitale, vous ne vous représentez plus dans votre contrée. C'est quand les élections approchent que vous partez encore recontacter le même électorat. Alors, eux, ils ne sont pas dingues, ils ne sont pas bêtes. Quand vous venez, ils vont vous faire des reproches pour dire, mais depuis que vous êtes élu, vous n'êtes pas venu. C'est maintenant que vous voulez un deuxième mandat ou un troisième mandat, que vous venez nous revoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Vous voyez, il y a eu des plaintes pareilles. Et il y a des cas qui ne se sont jamais prononcés, qui ne sont jamais allés au village, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, députés, ils ne partent pas. Mais on a vu aussi des femmes dynamiques. Tout ce qu'elles gagnent, elles les ramènent au village. Elles font des puits, elles font des mosquées, elles font des CSI, elles donnent des ambulances, des vivres, etc. Elles ne sont pas restées les bras croisés. Et vraiment, elles ont fait des actions. Et c'est là ça qu'ils disent Aïe Mugani. Donc, elles ont fait des actions vraiment formidables. Elles ont aidé. Mais il y a des femmes négatives qui n'ont rien fait.
Donc, est-ce qu'en général, peut-on dire que les objectifs de ces femmes parlementaires ont été atteints ou pas?
Et plus ou moins. Si on donne un pourcentage sur 100% quand même, les objectifs ont été atteints à 70%, mais il reste encore du travail à faire. Parce qu'il faut sensibiliser aussi les femmes députées. On ne les élit pas pour qu'elles portent le drapeau du Niger seulement à l'Assemblée et venir somnoler, mais on les élit pour qu'elles fassent des actions concrètes sur le terrain. Normalement, une femme parlementaire doit être une femme de terrain, ne pas venir s'asseoir dans la capitale dans sa grosse voiture et vous ne repartez plus au village. Vous ne repartez qu'aux échéances prochaines.
Alors, en tant que structure qui milite pour le droit des femmes, qu'attendez-vous de ces femmes élues députées pour cette 7e République?
Ce qu'on attend d'elles, il y a eu une avancée, il y a eu du travail. Il y a quand même eu du travail. Qu'elles continuent dans le même sens. Elles n'ont qu'à, ce qui est fait, elles n'ont qu'à faire un état des lieux. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui est fait dans leur contrée et qu'est-ce qui reste à faire? Et elles n'ont qu'à continuer parce que c'est une continuité. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de revenir, qui ont bien travaillé, mais elles n'ont qu'à continuer le travail de leur sœur. Voilà ce qu'on attend de ces femmes-là.
Pensez-vous que ces femmes élues députées peuvent relever le défi face aux problèmes des femmes?
Si elles le veulent, c'est une question de volonté. Non seulement personnel, mais aussi une question de volonté politique. Et vous êtes député d'un parti politique, vous êtes député d'une contrée. Si vous ne faites pas l'affaire, le parti ne va plus vous proposer Et aussi, les femmes ne vont plus vous élire. Parce que si vous êtes là où vous êtes parlementaire, c'est grâce à un... Vous avez des gens derrière vous. Si ces gens-là, ils voient que leur objectif n'est pas atteint, prochainement, vous n'allez plus revenir.
Sur ce, je vous invite à écouter le portrait de Madame Fessouna Hadizatou, Diallo, réalisé par notre collègue Ricky Arimé.
Madame Fessouna Hadizatou Diallo, âgée de 75 ans, mère de 6 enfants. Après ses études primaires à Tessawa Gazawa et secondaires à Niamey, Hajia Hadizatou Diallo continua ses études à l'École nationale d'administration ENA et sort avec une maîtrise en droit des affaires. Après avoir travaillé dans plusieurs structures, c'est en 1989 que sa passion politique a pris de l'ampleur. Madame Souna fait partie de l'une des premières femmes députées de la Deuxième République. Elle nous donne les détails de son aventure.
C'est un militantisme, la politique. Donc depuis le cours normal, j'étais dans l'amicale, n'est-ce pas, des normaliens. Et c'est aussi une façon de vivre la politique, puisque le milieu associatif prépare également à l'entrée donc, en politique. Donc je peux dire que depuis mon jeune âge, moi, j'ai milité et je connais ce que c'est que le militantisme. Je n'ai fait que renforcer ma vocation. Au moment où le président Ali Chebou voulait mettre l'Assemblée nationale en place, j'ai été sollicitée par des femmes, en fait, pour me présenter. Les femmes sont venues me voir pour dire que voilà, le président Ali Chebou veut mettre en place l'Assemblée nationale. Des femmes ont été sollicitées, mais on leur réservait le quota. Déjà, le quota faisait son bonhomme de chemin. Et j'ai dit que moi, je ne voulais pas de quota. Et c'est ainsi que je me suis renseignée. On m'a dit que non, on pouvait se présenter de la base au sommet. La présélection, et ensuite, il y a une liste maintenant qui va être présentée à une autre structure pour le choix, n'est-ce pas, des candidats. Et c'est ainsi que je me suis présentée. Il n'y avait que 5 femmes. Sur les 5 femmes, je suis la seule qui ne soit pas un quota. Vous voyez que c'était déjà disproportionné.
Le mandat législatif de Mme Fessouna Hadizatou Diallo a été interrompu par la Conférence nationale souveraine. Il n'a duré que 2 ans et cela n'a pas été facile pour elle.
L'Assemblée nationale a été dissoute. Pendant qu'on y était, moi j'ai eu du mal à me faire entendre que ce n'était pas facile pour nous d'évoluer vraiment dans un milieu où il y avait des hommes qui étaient déjà en politique, qui étaient bien préparés. Nous étions 113 députés, mais vraiment nous avons été très malmenés. Il faut que les gens votent parce qu'on est là pour voter et puis pour ne pas discuter, pour ne pas dire son mot, etc., etc. Mais moi, j'avais cette conviction de ne pas voter quand ça ne nécessite pas justement que je donne ma voix. Et j'ai été toujours confrontée à des tas de problèmes par rapport aux hommes, par rapport même aux femmes. Et mes discours agacent aussi bien les femmes que les hommes, parce que lorsque je me prononçais pour dire aux autres femmes de ne pas voter en même temps que moi, en fait, je ne les oblige pas, mais j'appelle leur attention, j'appelle à la solidarité, j'appelle vraiment à ne pas voter une loi, par exemple, qui ne nous donne rien du tout, qui n'est pas favorable. Donc, surtout me concernant, puisque en tant que juriste, j'étais vice-présidente de la commission des affaires générale et institutionnelle. Et là, j'avais en charge presque tous les chefs traditionnels là où leurs représentants. Et ils n'entendaient pas qu'une femme s'impose à eux, quoi, quel que soit son niveau. Ça n'a pas été facile. En plénière, c'est pareil. Ils n'étaient pas tolérants pour certains.
Par rapport à la situation de la femme, et la place de celle-ci, Madame Hadizatou a décidé de mettre en place le premier parti politique dirigé par une femme dénommée PNRD Al-Fajr. Monsieur Amadou Djibo Ndakoy, ancien député de la Deuxième République du président Ali Chebou, était le reporter de la commission générale et institutionnelle que Madame Souna dirige en tant que vice-présidente. Notre collaboration avec elle a été parfaite, dit Monsieur Ndakoy.
Nous avons bénéficié des conseils qu'elle nous donnait à l'époque. Deuxièmement, elle a été quand même utile dans l'administration, ce qui a fait que nous avons beaucoup collaboré, surtout moi en tant que rapporteur. Parce que les rapporteurs et les présidents sont toujours les premiers arrivés et les derniers à partir. de telle manière que nous avons gardé de très bons rapports dans la commission. Et vraiment, ça a rendu notre vie de député très utile, très agréable, parce que elle ne se gênait pas de prendre la parole, surtout quand il s'agit des dossiers qui concernent uniquement les femmes, parce qu'elle fait partie des vraiment les premières femmes qui se sont battues pour l'émancipation de la femme nigérienne. Après le MNSD, c'était la première femme à créer un parti politique. Ça veut dire qu'elle est nationaliste, ça veut dire qu'elle se préoccupe du problème des Nigériens et encore plus du problème des femmes nigériennes.
Madame Hadizatou Diallo était à la tête de plusieurs structures féminines pour que la femme nigérienne soit une place qui compte au plan social et au plan politique. Et aujourd'hui, sa porte est ouverte pour toutes celles qui veulent des conseils.
Retour au studio pour faire un petit tour de table. Bon, Madame Anana, que pensez-vous de ce que vous venez d'écouter ?
Moi, personnellement, je suis très émue d'écouter la maman. C'est clair que c'est une voie à suivre. C'est clair que c'est un très bon exemple à suivre pour quelqu'un qui a des ambiances politiques. Mais j'aimerais revenir par rapport à, puisqu'il s'agit du sujet, les droits des femmes nigériennes. J'aimerais revenir par rapport à la parenthèse que notre chère maman Khadija Diallo nous a énuméré dans son intervention en disant, par exemple, on a fait face aux hommes, on s'est imposé. Par exemple, moi, ça n'engage que moi, ce que je vais dire, c'est ma pensée et c'est aussi, comment on appelle ça, une supposition que je vais faire. C'est-à-dire, moi, selon moi, si aujourd'hui on a échoué sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'actions visant à protéger ou à militer pour les droits de la femme nigérienne, c'est parce qu'on n'avait pas droit à tout ce qu'on avait utilisé. Il y avait eu des choses à éviter, entre autres. Je donne un exemple. Je me souviens de la fois où le ministère, où la communicatrice du ministère de la promotion de la femme avait été passée à l'hémicycle cette année, hein, en 2021, pour présenter une communication, je pense, du PNUD ou du programme Spotlight, excusez-moi. Donc, du coup, le jour elle est venue, elle a commencé à parler, tous les hommes ont quitté l'Assemblée. Je n'avais pas l'intention de parler, j'ai pris le micro pour dire que ce n'est pas normal. Je n'ai pas compris pourquoi les députés hommes ont quitté. Et vous savez, ils ont raison. Si vous écoutez, c'est comme si pour que la femme nigérienne ait son droit, il faut qu'elle se batte avec l'homme en face d'elle. Et je ne sais pas qui se débrouille pour nous mettre en confusion par rapport à ça. Pendant que pour avoir nos droits, on n'a pas besoin de se battre. On n'a pas besoin de faire face des forces aux hommes. Moi, je pense que c'est peut-être l'une des erreurs qu'on doit désormais, en tant que femme militante pour la promotion des femmes, à éviter. On n'a pas besoin de se bagarrer avec ces hommes-là. Je me dis tout simplement, ces hommes-là à qui on fait face, c'est des Nigériens. C'est souvent nos papas, c'est souvent nos fils, c'est souvent nos maris. Ils savent mieux que nous où se trouve le problème. Et peut-être c'est non pas de se battre ou d'arracher ou de s'imposer. Non. C'est de s'asseoir, de se concerter et de se ramener à chacun de faire preuve de bonne foi pour se mettre la main dans la main, pour travailler et essayer de faire avancer la femme nigérienne. Et la seconde chose, je dirais, pour militer pour la femme, c'est très simple. C'est-à-dire pour se battre pour l'émancipation de la nigérienne, et c'est très simple, hein. Il suffit juste, comme j'ai dit, de la rétablir dans ses droits déjà existants. Parce qu'on n'a pas besoin d'inventer d'autres. Elle en a déjà, la nigérienne. Mais comment sensibiliser? Comment amener tout le monde à accepter cette réalité-là pour qu'on en finisse? Donc, c'est un peu mon opinion. Je suis sûre que je parle comme ça pour dire que je suis sûre que déjà nos prédécesseurs qui ont pu accéder aux institutions décisionnelles de ce pays ont déjà beaucoup fait. Elles ont fait le plus gros des travaux, ou ils ont fait le plus gros des travaux avant notre arrivée. On a juste à mettre les choses en ordre et pour pouvoir avancer et apporter beaucoup de réponses.
Selon vous, que doit-on faire concrètement pour défendre le droit des femmes ?
Au Niger ?
Oui, exactement.
Il faut d'abord se réconcilier avec les hommes. Parce que vous savez, quand J'espère, hein, il y a ma collègue qui rit. En fait, c'est vraiment ma conviction. C'est-à-dire, on s'est mis dans une position où, aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, il faut éduquer les femmes, il faut protéger les femmes. C'est vrai, on est les plus vulnérables, c'est vrai, on est à protéger. Mais en voulant le faire, on l'a fait trop, au point où on a délaissé les hommes et on a créé un déséquilibre. Alors, selon moi, au stade où on est, la meilleure manière de protéger la femme nigérienne, c'est de retourner aussi à l'éducation des hommes. Une manière de dire pour équilibrer le plateau, il faut de la même manière, dans un domaine bien précis, la femme a besoin d'être sensibilisée et éduquée. De cette même manière, dans un autre domaine aussi parfois différent de la femme, l'homme a besoin d'être sensibilisé et éduqué. Donc, on ne peut pas avoir cet équilibre que nous recherchons si on continue à délaisser les hommes dans cette partie-là. Donc, c'est un peu ça mon opinion.
Alors, Madame Nana, est-ce que vous avez un conseil à lancer à l'égard des femmes parlementaires et aussi les autres femmes qui sont dans le gouvernement?
Oui, moi l'appel que je voudrais lancer, c'est comme je l'ai dit en début du forum, j'avais dit que si seulement nous toutes on se réveillait pour se mettre à l'évidence que la chance que nous avons de servir notre pays ou de servir plus précisément nos sœurs, nous sommes leurs porte-parole, nous sommes la voix des sans-voix. Et je suis sûre qu'en nous mettant ensemble, il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire. J'aurais souhaité, par exemple, qu'il y ait cette union-là des femmes tout autant qu'elles sont, de tous les horizons possibles. Si dès elles sont des femmes sur une chaise de prise de décision, j'aurais voulu qu'on se réunisse autour d'une même table, autour des objectifs, pour pouvoir voir la main dans la main que pourrions-nous faire pour faire avancer notre pays. Et au-delà de ça, que pourrions-nous faire pour que enfin la Nigérienne accède à l'épanouissement comme on le rêve. Donc c'est ça mon conseil.
C'est sur ce conseil de Mme Abdrahmane Anadjoubi que prend fin cette émission Espace Femmes sur le thème « La contribution des femmes parlementaires » pour défendre les droits des femmes. Merci de nous avoir suivis à travers nos 46 radios partenaires. Nous étions en compagnie de Mme Abdrahmane Anadjoubi Haruna Mati, députée parlementaire, Mme Maman Hassia Hassan, députée également maire de la commune de Kenyawami, également de la présence de Mme Kiari Falmata de la structure Kongafen. Je suis Samira Wafi pour la modération de cette émission et à la technique, c'était Amina Hassan. Place maintenant à notre rubrique Affaires. Sur ce, bonne soirée à vous.
Affairage, 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 affairage. Affairage.
Voisine,
je suis là. Comment tu vas? Et ta famille?
Dieu merci, tout va bien. Mais dis-moi, tu m'as l'air soucieuse. Qu'est-ce qui ne va pas?
Voisine, tu te souviens de mon amie Zainabou? Elle a accouché hier soir.
Machallah, c'est une très bonne nouvelle. Mais alors, qu'est-ce qui te rend triste?
Ah, elle a eu un problème? Non, non, pas du tout. Tu te souviens le jour du baptême de mon enfant? Elle m'a apporté une enveloppe de 10 000 francs CFA et un carton de savon. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je suis dans l'incapacité de lui rendre l'appareil.
Non, c'est cela qui te rend aussi désemparé?
Plus que ça, ma chère, c'est une honte pour moi de ne pas lui donner plus que ce qu'elle m'a donné.
Ah non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un prêt à rembourser. C'est juste un cadeau pour te féliciter de la naissance de ton bébé.
C'est comme si tu ne connais pas les femmes d'aujourd'hui. Elles attendent toujours un retour de leur geste plus majoré.
Calme-toi, Nana. Ce que j'ai à te dire, c'est de t'habiller et rends-toi au baptême. Et donne-lui ce dont tu disposes.
Moi, j'ai vraiment peur d'être la risée du quartier, d'être indexée parce que je n'ai pas grand-chose à donner. Les temps sont vraiment durs de...
Hey, vas-y seulement. Sache que même si tu ne lui donnes rien, cela ne va pas être la fin du monde. Tu n'es certainement pas la seule personne dans cette situation et à penser cela. Les cadeaux, ce ne sont pas vraiment des prêts qui attendent forcément un remboursement.
C'est ce que tu dis, mais je vais quand même m'apprêter à aller.
C'est ce qu'il faut faire. C'est la vérité, ma chère. Les cadeaux lors des cérémonies, c'est juste un geste de solidarité entre femmes. Et même les hommes font partie du lot. Tu n'as pas à t'en faire. Pour moi, c'est un faux problème que tu as là.
Ah voilà, merci de m'avoir remonté le moral. Je vais tout de suite m'apprêter pour ne pas rater le surundu. C'est bon. bon riz au gras du déjeuner.
Très bien. Et ne manque pas de mettre ma part dans ton sac. D'ailleurs, tiens, mon sachet noir.
En plus, tu veux qu'on me traite de tous les noms, n'est-ce pas?
Apporte-moi au moins ton jus alors.
À plus alors, vas-y.